Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. 20 ans après la signature des accords de paix qui ont mis fin à 3 décennies de violence, l'Irlande du Nord a retrouvé un quotidien loin des attentats de l'IRA ou des affrontements communautaires entre catholiques et protestants. Dans un pays où le chômage est relativement faible, la paix était censée apporter la prospérité. Eh bien, c'est le cas aujourd'hui. Les investissements, les crédits européens, la coopération avec l'Irlande ont globalement profité à la province. Cependant, la perspective du Brexit soulève des questions sur la poursuite de ce dynamisme économique et les Nord-Irlandais manifestent leur inquiétude. Reportage Julien Lagache.
Il y a toujours du monde ici, toujours quelque chose à faire, des endroits à voir. Il y a des boutiques, il y a de quoi manger, boire un verre.
Au centre commercial Victoria Square, Lauren Newton profite de son jour de congé pour faire du shopping. La jeune cuistot originaire de Derry n'a pas connu Belfast pendant les troubles, mais elle apprécie le dynamisme actuel de la capitale nord-irlandaise dont le centre-ville a été rénové et transformé, note Neil Patton, commercial sur Belfast.
Belfast, c'est fantastique. On y voit se développer le tourisme, il y a plein de nouveaux hôtels, des restaurants. Des jeunes partis à l'étranger reviennent avec des idées et ouvrent des cafés. La vie nocturne est super également.
Pourtant, rien de tout cela n'aurait été possible sans les accords de paix de 1998 qui ont mis fin à 30 ans de violence. Le centre-ville de Belfast était alors ultra sécurisé, les alertes à la bombe fréquentes, tout comme la fouille systématique des sacs à l'entrée. Désormais, la capitale rayonne et attire touristes et travailleurs étrangers, se félicite Nuala McAllister, ex-Lord Mayor de la ville.
Nous avons un nombre record de touristes qui viennent ici pour voir notamment le musée du Titanic. Il a été désigné première attraction mondiale pour les World Travel Awards. La ville elle-même bouge, elle a bénéficié de plus d'1 milliard d'euros d'investissement pour les infrastructures de tourisme, de loisirs. Et nous sommes numéro 1 mondial pour l'investissement dans les technologies numériques.
Une liste que la conseillère municipale trentenaire déroule avec gourmandise pour souligner les bénéfices économiques de la paix liés à l'ouverture sur le monde de l'Irlande du Nord. Mais le Brexit pourrait faire vaciller cette stabilité. Le secteur associatif notamment craint une fin des crédits européens qui soutiennent le processus de paix. David Kennedy est porte-parole de Youth Initiative qui promeut le dialogue intercommunautaire des jeunes.
Les financements pour la paix nous sont bénéfiques. Notre projet Strive, par exemple, reçoit près de 4 millions d'euros. C'est énorme. Ce sont des emplois, des infrastructures, des bureaux. Mais que se passera-t-il après pour les services qu'on offre aux jeunes pour leur développement, leur apporter des compétences? Et qu'arrivera-t-il aux gens employés grâce aux fonds européens?
D'autant que l'argent européen a aussi permis de réaliser des travaux en faveur d'une meilleure cohésion territoriale. L'autoroute M1 qui relie Belfast et Dublin était largement financée par l'UE pour rapprocher les deux Irlandes et faciliter les échanges. Entre les deux capitales, Newry se tient à quelques kilomètres de la frontière avec la République d'Irlande. Le monde de l'entreprise y scrute avec attention les négociations du Brexit, explique Colm Shannon, qui dirige la chambre de commerce de la ville.
Nous avons beaucoup de petites entreprises qui travaillent quotidiennement des deux côtés de la frontière et elles veulent continuer à le faire. Maintenant, on nous parle de documents supplémentaires à fournir, de recours à des intermédiaires, d'ajustements d'impôts. Mais tout ça, c'est de la paperasse et de la bureaucratie. Nos entreprises n'en veulent pas. Elles ont déjà des marges étroites.
Selon un rapport gouvernemental britannique, l'économie nationale risque une contraction de 2,5 à 12% d'ici 15 ans, de quoi inquiéter de nombreux secteurs économiques de l'île, notamment l'agroalimentaire qui pèse près de 70 000 emplois en Irlande du Nord. Le pays travaille d'ailleurs étroitement avec son voisin irlandais dans ce domaine. Pour Jim Heaney, retraité du comté de Tyrone, également frontalier, les conséquences d'une frontière seraient inévitables.
S'il y a une frontière physique, je vois très bien la pression que ça met sur les agriculteurs. Comment vont-ils faire pour l'import-export? Admettons qu'on laisse les personnes circuler. Qu'en sera-t-il des animaux, des produits? À quoi l'issue des négociations va ressembler?
Une question toujours en suspens, plus de 2 ans après le référendum sur le Brexit. Et si l'Europe semble vouloir maintenir des crédits pour les programmes de soutien à la paix, l'avenir de la politique agricole commune est plus flou alors qu'elle constitue 87% du revenu des agriculteurs nord-irlandais. Des incertitudes qui empêchent toujours nombre d'entreprises de se préparer au divorce entre Londres et Bruxelles.
Autant l'Irlande du Nord souhaite rester dans l'Union pour des raisons économiques notamment, autant certains mouvements politiques du vieux continent souhaitent en sortir. Il y a quelques semaines déjà, les Européens assistaient effarés à de violentes manifestations anti-migrants à Chemnitz, dans l'est de l'Allemagne. À 200 km de là, plus à l'est encore, à la frontière de la Pologne, à Görlitz, l'AfD, Alternative für Deutschland, séduit par un discours marqué par le patriotisme économique. Une posture qu'elle partage avec la Lega en Italie ou le FN, aujourd'hui RN en France. Avec Franziska Hensch et Sylvia Richard, Cécile Debarge a rencontré des élus des 3 mouvements d'extrême droite en phase sur les questions d'économie.
Dernière ville frontière entre Allemagne et Pologne, Görlitz est l'une des principales villes de Saxe dans l'est de l'Allemagne.
L'avantage d'une région frontalière, c'est de pouvoir commercer plus facilement à une échelle internationale. Nous sommes une ville européenne, aux frontières de 3 pays, ce qui nous ouvre plusieurs marchés. Mais toutefois, ça a aussi ses inconvénients.
Sébastien Wippel est élu au Parlement régional pour le parti d'extrême droite AfD, Alternative für Deutschland. Avec 11,3% de chômage, selon les dernières statistiques de l'été, Görlitz est l'une des villes les plus touchées par le chômage dans toute la région, où la moyenne est d'environ 5,9%. Une ville symbole, donc, pour remettre en cause les règles économiques qui régissent cette région frontalière.
Nous nous sommes rendus compte que dans ce contexte régional, nos entreprises locales ne parviennent pas à vendre dans les pays de l'Est, et cela rend la région très peu attractive. C'est pour ça qu'on a songé à développer une zone d'économie protégée qui soit soutenue par la région afin que toutes les entreprises qui souffrent de ces désavantages puissent avoir un allègement de leurs taxes.
Moins de taxes, mais aussi une réglementation commune sur les salaires minimums, comme le souhaiterait l'une des militantes de l'AfD, habitante de Görlitz.
Sur le même thème, il faudrait parler d'un salaire minimum européen, car ici, dans une région frontalière, on souffre de concurrence déloyale, avec par exemple des entreprises polonaises qui paient leurs employés 3 euros de l'heure. Et ça, c'est un gros problème dans les régions frontalières.
Protéger les entreprises allemandes, protéger les travailleurs allemands, mais aussi protéger le marché allemand et sa compétitivité, en remettant en cause la politique de monnaie commune. Voilà les piliers de la politique économique défendue par l'AfD. Jörg Meuthen est un économiste porte-parole du parti.
Quand on parle d'une monnaie, de l'euro, on n'a pas de devoir de solidarité. L'argent, c'est là pour remplir des fonctions bien précises et c'est pour ça qu'existe la monnaie. On peut envisager une monnaie commune lorsqu'il y a convergence. Et lorsque ce n'est pas le cas, plusieurs économistes nous avaient avertis, ça ne conduira pas à ce que nos positions se rejoignent. Au contraire, ça créera plus de divergences et c'est ce qui s'est passé.
Pour nommer cette politique, la dialectique est claire, appliquer la notion de patriotisme à l'économie. Jörg Meuthen.
J'ai du respect pour les habitants de toutes les nations du monde, mais mon pays, c'est l'Allemagne. C'est là que j'ai grandi et ça me tient bien plus à cœur que des endroits que je ne connais pas.
Une notion que l'on retrouve dans le programme économique du Front National français que développe Nicolas Bay, député européen pour le FN.
Et s'agissant du patriotisme économique, c'est tout simplement la possibilité que les entreprises françaises soient prioritaires, par exemple, dans la commande publique française. C'est aujourd'hui interdit au nom du grand dogme de la concurrence libre et non faussée par l'Union européenne. Et puis le patriotisme économique, c'est aussi mettre en place des protections quand c'est nécessaire.
Car au-delà des concurrences frontalières, c'est tout le système de libre-échange promu par l'Union européenne qui est remis en question.
L'Inde, le Japon, les États-Unis, aujourd'hui, de façon assez spectaculaire, mettent en place des protections économiques. L'Union européenne va à rebours de cette tendance générale en supprimant toutes les protections douanières. Eh bien, supprimer toutes les protections douanières, c'est évidemment favoriser le dumping social, favoriser le dumping environnemental.
Ce discours fait écho aux positions de la Lega italienne dont les récentes prises de parole ont confirmé le souhait de devenir le nouveau parti des travailleurs et d'occuper un espace politique habituellement réservé à la gauche. Une position parfaitement résumée par le chef du groupe de la Lega au Parlement italien, Riccardo Molinari, en déplacement dans le Piémont.
Abbiamo mantenuto anche la promessa On a aussi tenu notre promesse de lutter contre la précarité. On l'avait dit. Quand Matteo Renzi a fait ses réformes du marché du travail, on a bien compris que ce n'était plus le parti des laissés pour compte, le parti des travailleurs, le parti des plus faibles. Ce sont devenus les chiens de garde des patrons, le parti des riches, le parti des forts, des multinationales, de la finance mondiale.
Des positions qui séduisent localement, mais dont l'écho auprès des électeurs est à relativiser. Selon la dernière enquête Eurobaromètre Standard réalisée au printemps, la moitié des Européens a une opinion positive de la situation de l'économie européenne. Un chiffre légèrement en hausse et un record depuis 2007. Et la crise qui a touché les pays de l'Union européenne, alors que 37% des Européens en ont eu une opinion négative.
L'économie, encore toujours l'économie, depuis 15 ans environ, celle du Monténégro est portée par le tourisme, mais sa côte très découpée est aujourd'hui bétonnée et même les espaces protégés risquent de se transformer en zone prioritaire de développement touristique. C'est le cas de l'île sauvage de Sveti Nikola, la plus grande du littoral, Simon Rico.
Une marina de 50 pontons, un complexe résidentiel, des hôtels pouvant accueillir jusqu'à 500 personnes. Le plan d'urbanisme adopté par le gouvernement de Podgorica voit les choses en grand pour développer Sveti Nikola. L'île, située en face de Budva, la plus célèbre station balnéaire de la Riviera monténégrine, semble donc promise à accueillir une armada de touristes dans les années à venir. Jusqu'à présent, ce rocher long de 2 km, inhabité et recouvert d'une abondante végétation méditerranéenne, dont une partie est protégée depuis 1952, accueille de petits bateaux transportant quelques touristes venus y profiter des fonds marins et du calme de ses plages, loin du barouf de Budva. Historiquement, l'île appartient aux habitants de la côte voisine, mais ces dernières années, des investisseurs ont commencé à racheter des parcelles. En 2017, Thaksin Shinawatra, l'ancien premier ministre thaïlandais accusé de corruption et aujourd'hui citoyen monténégrin, a par exemple acquis 37 000 mètres carrés pour un montant total évalué à plusieurs millions d'euros. Une bien coquette somme pour un terrain vierge immédiatement placé sous l'hypothèque de la Perva Banka, propriété du frère du président du Monténégro. Thaksin Shinawatra était-il au courant du projet de zone prioritaire de développement touristique ? Toujours est-il que ce plan suscite de vives polémiques chez les habitants du coin. Au-delà de l'impact environnemental, les autorités locales, pourtant du même bord que le gouvernement, assurent que ces investissements ne seront pas rentables à cause des conditions météo qui limitent la saison à 3 mois. Alors que le Monténégro est candidat à l'intégration européenne, de nombreux citoyens citent en exemple la Croatie voisine qui a classé plus de 1000 de ses îles. Pour eux, Sveti Nikola devrait devenir une réserve naturelle et ne pas céder aux sirènes des riches promoteurs qui ont déjà saccagé presque tout le littoral du pays.
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Catherine.
Eh oui, on prend large avec vous, on l'entend bien.
Ça fait du bien.
Enfin, pas tant du bien que ça, parce que le large est quelque peu pollué aujourd'hui. Les océans sont devenus de véritables poubelles et on peut se demander ce que l'Europe, avec ses quelques 66 000 km de côte, peut faire pour les sauver. Alors, l'association Surfrider Foundation, créée il y a près de 30 ans maintenant, a lancé une grande consultation en ligne en vue des élections européennes de mai prochain pour attirer l'attention des futurs élus sur l'avenir de ce bien commun particulièrement malmené ces dernières années.
Oui, parce que si la maison brûle, comme disait Jacques Chirac, les océans, eux, ne vont pas mieux. Ils subissent largement la pollution des hommes et le réchauffement climatique provoqué par les choix industriels des dernières décennies. Chaque année, nous produisons, Catherine, plus de 300 millions de tonnes de plastique dans le monde et 8 millions se retrouvent dans nos océans. D'ici 2050, on prévoit même qu'il y aura dans l'eau plus de plastique que de poissons. Or, on l'oublie, mais les océans sont à l'origine de plus de la moitié de notre oxygène et dans cet océan de mauvaises nouvelles, son mauvais jeu de mots, l'Europe a son rôle à jouer car elle a des compétences en la matière et peut contraindre les États à prendre leur part de responsabilité.
Et oui, on va le rappeler, hein, Eve, l'Union européenne s'est attaquée à l'interdiction récemment des sacs à usage unique.
Et bientôt à d'autres produits plastiques du quotidien, comme les couverts en plastique, les pailles, qui constituent la majorité des déchets que l'on retrouve sur nos plages. En juin dernier, d'autres directives ont été publiées pour encadrer cette fois-ci la gestion des déchets d'emballage et de mise à la décharge. Des avancées qui ont été saluées largement par les associations écologistes. Le Parlement européen s'est aussi opposé, souvenez-vous, en début d'année à la pêche électrique. Un vote qui avait fait suite à une campagne virale, cette fois-ci, qui avait mobilisé des millions d'internautes européens sur les réseaux sociaux. C'est désormais donc prouvé, les internautes ont le pouvoir d'influencer les eurodéputés, une raison de plus pour s'exprimer.
Oui, alors la consultation propose aux citoyens européens de hiérarchiser leurs attentes en matière de protection des océans.
Le questionnaire s'appelle Voice for the Ocean. Il est imaginé donc par l'association Surfrider et se divise en quatre catégories. La pollution des océans, l'exploitation des ressources et la transition énergétique, le tourisme durable et enfin l'océan et nous, les rapports que nous entretenons avec l'océan. Chacune de ces parties fait l'objet d'un support pédagogique, d'une petite vidéo, puis d'une proposition de mesure à soumettre aux candidats européens. Le but est de faire entrer l'océan dans la majorité des programmes électoraux et d'identifier du premier coup d'œil les candidats Ocean Friendly.
L'occasion de découvrir aussi des problématiques très concrètes, hein, comme la présence de ces fameuses microbilles de plastique dans l'océan.
Si vous avez marché sur une plage cet été, vous en avez croisé des millions sans forcément les apercevoir. Ces microbilles se trouvent principalement dans les cosmétiques que nous utilisons au quotidien, comme les shampoings, les dentifrices ou les gommages pour la peau. Des perturbateurs endocriniens qui se retrouvent dans les océans via le réseau des eaux usées et sont mangés par les poissons avant de finir dans notre assiette. Bien que particulièrement nocives, elles n'ont pas encore été interdites par l'UE.
Et puis, signalons à Eve, pour ceux qui veulent rencontrer en chair et en os hein, les experts, les acteurs locaux, la campagne Voice for the Ocean s'accompagne du tournée en Europe.
Les premières étapes ont déjà eu lieu cet été. C'était en Bulgarie, lors des Journées maritimes européennes, puis à Paris, au siège de l'UNESCO. D'autres dates sont déjà prévues à Malaga, en Espagne, deuxième ville portuaire en Méditerranée, les 1er et 2 octobre prochains. Suivront à Bruxelles, le 15 octobre, les European Chapter Days, avec tous les bénévoles de l'association, donc Surfrider. Enfin, début novembre, un événement dédié à la problématique du réchauffement climatique et à la qualité de l'eau aura lieu cette fois-ci à Porto, au Portugal. Mais pour ceux qui ne passent pas par là, n'oubliez pas, vous pouvez déjà, dès aujourd'hui, répondre au questionnaire en ligne et en 6 langues à l'adresse suivante VFTO pour Voice for the Ocean.surfrider.eu.
Et oui, la propreté des océans, hein, ça ne concerne pas que les poissons. Merci Eve Binot.
Merci, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Quand les barrages deviennent des œuvres d'art, cela se passe au Portugal et l'initiative est portée par l'électricien national EDP. Des artistes de rue comme Vils s'en sont emparés et ont laissé libre cours à leur imagination. Marilyn Darcy.
Jusqu'à présent, le barrage de Caniçada, situé dans le parc national du Gerês, au nord du Portugal, ressemblait à n'importe quel autre barrage. Mais Caniçada vient tout récemment de se transformer en œuvre d'art. Sur la paroi du barrage, couvrant toute sa surface, un visage est apparu qui semble regarder les passants. En bas du portrait, des silhouettes d'enfants jouant, insouciants. Une immense peinture réalisée par Wills, le plus connu des artistes de rue portugais. L'artiste a abandonné sa méthode habituelle qui a recours aux explosifs pour faire apparaître le dessin sur la matière des murs. Wills a peint en blanc sur le gris noir du parapet du barrage pour un résultat saisissant. L'énigmatique visage semble interroger les spectateurs. L'artiste a intitulé son œuvre « Viscérale », une réflexion sur ce qui reste ou ce qui se passe dans une région reculée. Deux autres artistes ont intégré cette nouvelle vague d'intervention sur les barrages du Portugal. Rui Chaves a lui construit une coquille de métal près du barrage de Fostoa qui, selon cet artiste, pourrait servir d'abri. Pour sa part, José Pedro Croft a lui placé sur l'une des berges du Sabor, près du barrage du même nom, cinq miroirs géants et cinq cadres évidés ouvrant sur la nature. À l'opposé, sur l'autre rive, un belvédère où se trouvent des jumelles grossissantes 30 fois qui permettent de scruter ce qui transparaît des installations, le vide ou les reflets. Croft a voulu faire réfléchir sur les liens ou l'absence de liens entre la construction d'ingénierie, le barrage et la nature qui l'environne.
À la réalisation et à la mise en onde, il y avait bien sûr Françoise Grelot. Vous pouvez suivre Accent sur RFI.fr et puis également sur la page Facebook.